Audiolib présente Jour sans fin de Delphine de Vigan, lu par l'auteur.
À Daniel. C'était quelque chose en dehors d'elle qu'elle ne savait pas nommer. Une énergie silencieuse qui l'aveuglait et régissait ses journées. Une forme de défonce aussi, de destruction. Cela s'était fait progressivement, pour en arriver là, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin les limites du jeûne et de la souffrance. Les genoux qui se cognent, des journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps vole au-dessus des trottoirs. Plus tard, les chutes dans la rue, dans le métro, et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le froid est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui disait qu'elle était arrivée au bout, et qu'il fallait choisir entre vivre ou mourir. Chapitre 1. C'est à cause du froid qu'elle a accepté le rendez-vous, la première fois quand il l'a appelée. Une voix inconnue, nasillarde, lui proposait de l'aide. Un soir d'automne, un soir comme tous les autres, enchaîné au radiateur. À cause du froid, mais pas seulement. Elle a commencé par refuser. De quoi je me mêle? Il a posé quelques questions sur son état physique, il n'a pas demandé combien elle pesait ni combien elle mangeait. Non. Plutôt des questions de connaisseurs, d'experts même, précises, directes, pour évaluer le degré d'urgence. Tant qu'elle se prêtait au jeu, il gagnait du temps. Ce temps qu'elle n'avait plus à perdre, ce temps ténu, tendue contre la mort comme une dernière virgule, fragile. Il lui a dit ça avant tout le reste, qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Elle a senti qu'il savait quelque chose de la solitude aussi, de l'enfermement. Tandis qu'il parlait, questionnait, elle torturait du bout des doigts le fil du combiné. Elle avait enfilé quelques minutes plus tôt un troisième pull, elle s'était roulée en boule, si tant est qu'on pût encore faire une boule de ses os pointus. Elle répondait sans réfléchir, comme elle aurait récité une fable, apprise depuis longtemps, sans y penser. Elle voulait seulement rester polie. Il a dit « Il est trop tard, vous n'en sortirez pas seule, je peux vous aider. Venez me voir à ma consultation, mercredi, je vous attendrai. » Elle a cherché des yeux ses cigarettes. Elle n'a pas eu la force de décoller son dos du radiateur pour attraper le paquet posé devant elle. Pour la première fois, quelqu'un criait pour qu'elle se retourne. Quelqu'un l'appelait qui savait nommer cette souffrance, la souffrance de son corps. Pour la première fois, quelqu'un venait la chercher là où les autres ne pouvaient pas, n'avaient plus la force. Il lui demandait, lui ordonnait de venir. Il savait que tout se jouait dans ce premier contact. Elle imaginait l'appréhension qu'il avait eue peut-être en composant le numéro. Elle entendait, dans les inflexions de sa voix, la peur d'échouer et cette volonté brutale qu'il avait de la convaincre. Elle a raccroché. Elle est restée là longtemps, prostrée. De quoi je me mêle, quand même. Le mercredi, elle a pris le métro jusqu'à l'hôpital. Elle pouvait à peine marcher. Elle est entrée dans le bureau. Elle s'est assise en face de lui. Elle n'avait rien à dire. Elle était vide. Vidé de tout. Il a posé quelques questions pour la forme et puis il l'a presque supplié « J'ai une chambre pour vous, vous ne pouvez pas repartir dans cet état. » Elle a refusé. Il cherchait des mots pour la retenir. Ses mains étaient posées sur son bureau, ses petites mains qu'un jour il ferait glisser sur sa peau transparente. C'était trop tôt.